l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Monde et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est Marie-Claude qui vient à la rencontre de vous, auditeurs. Et donc je vous rappellerai que nous sommes là un petit peu dans le cadre aussi pour présenter les interventions et les intervenants de la 31e quinzaine des solidarités internationales qui a pour titre cette année 20 monde de demain et génération d'après. Donc c'est tout un programme. Et j'ai deux invités aujourd'hui que je vous présenterai successivement pour ne pas les embrouiller, pour ne pas qu'ils présentent... Voilà. Et donc, la première invitée, c'est Maddy Mercier, qui représente Action contre la faim et qui va nous parler de la manifestation que cet organisme organise ce soir. Et ensuite, nous entretiendrons avec Florent Marot, qui est le président de Caragua Occitanie.
Bonjour. Alors, Marie-Claude.
Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux. Donc, Maddy, je vous donne la parole.
Alors, bonjour tout le monde. Le titre ce soir du débat qui a été organisé dans le cadre de la 31e quinzaine des solidarités internationales, alors s'appelle « Quand une pandémie en cache une autre, la question de la faim », FIM, hein, je précise. Alors, pourquoi intervenir ce sujet ? Pour de nombreuses raisons. La crise, cette pandémie... nous a tous bousculés, on va dire, en France, mais elle bouscule aussi beaucoup là-bas. On n'en a peut-être pas trop suffisamment d'informations, mais les grandes ONG comme le CCFD, qui sera présent ce soir avec Action contre la faim pour ce débat, vous présenteront les situations et les difficultés aujourd'hui que peuvent avoir les personnes en situation de très grande précarité. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ces crises sanitaires, même si celle-là est très présente, ont montré que toujours davantage de personnes peuvent mourir des conséquences indirectes de l'épidémie que de la maladie elle-même. Ça, c'est, je pense, une notion hyper importante à retenir. Qu'aujourd'hui, des millions de personnes dans le monde sont déjà plongées dans l'extrême pauvreté, dans l'insécurité alimentaire, la famine... La lutte contre le Covid-19 n'est en rien différente. Quelques chiffres. On considère aujourd'hui que plus de 800 millions de personnes souffrent de la faim, soit à peu près une personne sur 10 dans le monde, et que cette situation sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19 a entraîné une augmentation, ou va entraîner une augmentation de 150 à 200 millions de personnes affectées par la faim. Autant vous dire que cette situation n'arrange rien les gouvernants, les pays, les ONG qui interviennent. D'autres raisons vont entraîner aussi cette insécurité alimentaire. Selon les régions où les ONG travaillent, les pays dans lesquels vivent les personnes, il faut imaginer que l'accès à un système de santé n'est guère plus possible. Que l'accès à une réponse à cette crise alimentaire ne l'est pas non plus. Ne l'est pas non plus, et aller dans un centre de référence pour accompagner une maman malnutrie, une femme enceinte, un enfant de moins de 5 ans, ça l'est de plus en plus compliqué. D'autres raisons aussi qui entraînent cette insécurité alimentaire, on le voit aussi, ce sont ces situations de conflit qui ne s'arrêtent pas dans ce monde et qui vont entraîner des déplacements de populations. Et ces populations vont être en difficulté pour pouvoir se ravitailler, pour pouvoir manger. D'autres raisons, eh bien, ce sont les crises climatiques, les inondations qui augmentent, les sécheresses dans certains pays qui s'aggravent et qui vont aussi pénaliser les productions agricoles. Du coup, moins de ressources à acheter. Tous ces éléments, je l'ai dit un petit peu plus tôt, vont entraîner un effondrement économique localement, d'où la réduction de produits achetés avec surtout une augmentation des prix qui ne seront plus du tout accessibles aux populations en extrême pauvreté. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Je ne voudrais pas prendre ou débattre à la place des deux personnes qui vont en discuter ce soir. Donc Manuel Delorolez, donc qui est délégué général du CCFDTS, qui sera à Montpellier, et aussi Georges André Simon, qui est bénévole à Action contre la faim. Alors peut-être.
Oui, je continue ? Oui, bien sûr. Oui.
Alors, je peux apporter quelques petites réponses possibles. Ils vont en parler plus que certainement. Donc, les ONG, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont faire, elles vont apporter des réponses immédiates. Donc, ça va être beaucoup de distribution dans le cadre de l'urgence. Mais le meilleur du travail à faire, c'est surtout de réfléchir sur des réponses sur du long terme. Alors, ça va être quoi ? Eh bien, autant le CCFD qu'ACF, depuis plus de très longtemps, on va dire, puisque le CCFD est sur le terrain depuis les années 60, ACF depuis les années 70, ces ONG vont faire la promotion d'une agriculture paysanne. Elles vont soutenir les projets en agroécologie. Elles vont surtout proposer des formations aux femmes et aux hommes agriculteurs, le but étant de produire local, de mieux produire et ainsi produire pour nourrir les familles et parfois pour générer quelques revenus. Voilà, donc ce que je voulais dire, moi, c'était surtout de vous inviter ce soir peut-être à venir participer à ce débat. Vous aurez un peu plus d'échanges et de débattre justement avec des vrais professionnels. Alors moi, je vais parler pour Georges André. Georges André, professeur de sécurité alimentaire. Actuellement, son travail est basé en Italie. Voilà, et il est actuellement sur Montpellier et il est tout à fait heureux de pouvoir échanger avec vous.
D'accord, donc c'est tout un programme déjà. Alors simplement, moi je voulais ajouter mon petit grain de sel, c'est que justement, alors que ce matin je m'apprêtais à venir rencontrer justement, entre autres, Maddy pour cette organisation qui lutte contre la faim, voilà les dernières news que j'ai entendues quand même, c'est que en Afghanistan c'est une situation d'une urgence extrême, avec 3 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition aiguë, qu'actuellement les fonds de la Banque centrale afghane sont gelés par les talibans et que le système de santé est en train de s'effondrer en Afghanistan, et notamment pour la situation que vous pouvez imaginer, mais en plus par la fuite des Afghans, par ceux qui fuient justement ce régime-là. Donc vous imaginez dans quel état doit être ce pays actuellement, et on ne peut pas ne pas évidemment penser, et je sais que vous faites appel à la solidarité en ce moment aussi, non ?
Alors,
pour l'Afghanistan aussi.
Oui, alors l'Afghanistan, c'est sûr que c'est un sujet hyper important aujourd'hui. Action contre la faim est restée en Afghanistan au moment de la fuite du gouvernement il y a quelques mois. Ce travail de lien avec les populations ne peut pas s'organiser sans avoir des liens avec le gouvernement actuel, ce qui se passe à peu près correctement, on va dire, aujourd'hui. Et pourtant, on pourrait imaginer qu'au vu de la pensée de ces personnes au gouvernement, les acteurs, actrices, je dirais, qui travaillent pour Action contre la faim auraient pu être mises de côté, aujourd'hui, la place de la femme chez Action contre la faim est conservée, on va dire, sur les différents programmes dans les grandes villes dans lesquelles intervient l'association. Et actuellement, nous sommes présents dans 5 grandes villes en Afghanistan. Alors, ce ne sera peut-être pas le débat d'aujourd'hui, mais j'aimerais déjà annoncer quelque chose. Il se trouve que le 5 décembre, à la faculté de Béziers, la faculté de droit de Béziers, le président d'Action contre la faim, Pierre Micheletti, viendra débattre, mener une conférence à ce sujet, propre sur l'Afghanistan.
Sur l'Afghanistan, oui. D'accord. Ok. Bon, je vous laisse la parole encore.
Que dire aujourd'hui ? Je crois qu'on est, on n'est pas conscient de cette situation mondiale autour des difficultés d'accès à la sécurité alimentaire. On se plaint, hein, nous, beaucoup. Mmh. Oui. oui, pourquoi pas se plaindre ? On veut toujours un peu mieux. Mmh. Mais quand même, je crois qu'il faut aller voir un peu ce qui se passe autour de nous. Et sincèrement, moi, je vous invite ce soir à venir écouter. Et je voudrais revenir et rebondir sur la semaine précédente de la 31e quinzaine, où vraiment des débats autour du Covid et de toutes les conséquences qu'a entraîné ce Covid au niveau mondial. On ne mesure pas la situation et l'aggravation des enfants qui n'ont pas pu aller à l'école, la situation de la santé qui n'est pas suffisamment prise en compte dans les pays, faute de moyens, faute de vaccins, faute de prévention, faute de matériel, des services de réanimation dans des pays en développement. Je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup. Quoi.
Moi, je n'en connais pas, en tout cas.
Voilà. Et donc, on pourrait dire aujourd'hui que les chiffres concernant le Covid au niveau international sont certainement très sous-estimés par rapport à la réalité, même si on veut faire croire que l'Afrique, peut-être, au vu de la chaleur, au vu de la jeunesse dans ce pays, dans ce continent, peut-être a évité une pandémie importante. Mais ça, on est sûr de rien. Et moi, je pense que voilà, ces journées, je reviens là-dessus, ces soirées de la semaine dernière ont pas été suffisamment suivies par les Montpelliérains et les gens de la ville, quoi, on va dire, quoi. Voilà, c'est dommage.
Voilà, donc on va souhaiter que ce soir, on fasse le buzz avec la... Donc, vous nous rappelez le titre de la conférence, s'il vous plaît ?
Alors, ça s'appelle, donc, « Quand une pandémie en cache une autre », la question de la faim.
Voilà, on annonce la couleur et ça a lieu au centre
Rabelais. Centre Rabelais à partir de 19h.
Donc boulevard Sarail, à côté de l'Esplanade.
Sur l'Esplanade. Bon, pas sanitaire demandé, ça c'est normal.
Oui,
c'est tout à fait logique.
À ne pas oublier. Voilà, et puis peut-être vous allez nous annoncer une musique que vous avez choisie.
Alors oui, elle arrive.
Oui, alors c'est le titre, c'est.
Du coup.
Le titre, c'est.
Naguet. Voilà.
Naye, naye, pembeni na yo yoka, toza koluka, mikolo nyonso se bomo. Naye, naye, pembeni na yo yoka, toza.
Kolo yo kamini lulangai. Jodia, nous peut prier, on nous partage, moment à la, nous peut aller, plus haut, on nous courage.
ye bante ko mwende na luku tilonge motema adikane na bato pasenke munia duku nanginya mwelate na bato baba baba
na ye
bendolo madikana balaki
pembeni na yo imbani
yoka na manu
tuza
bendolo luka
Voilà, on vous retrouve donc, chers auditeurs, après la rencontre avec Maddy Mercier, qui nous a parlé de cette soirée de ce soir concernant Action contre la faim et les graves soucis de famine dans le monde. Et je reçois, j'ai le plaisir de recevoir donc Florent Marot, qui est le président du comité Nicaragua-Occitanie. Bonjour Florent.
Bonjour Marie-Claude.
Bon, alors donc je crois que peut-être vous pourriez un petit peu déjà nous parler de, ben je pense, pourquoi pas du Nicaragua ? Non, c'est pas une bonne idée ?
Voilà, on va parler un peu du Nicaragua où il se passe des choses.
Voilà, puis après on abordera après la manifestation que vous préparez, que vous voulez nous présenter.
Très bien, puis on fera peut-être une petite pause
musicale. Voilà, et on peut, ben, on se fera plaisir avec de la musique, pourquoi pas ? J'ai voilà. Rien contre. Donc, le Nicaragua.
Donc, quelques mots sur le Nicaragua. Alors, le Nicaragua, c'est un petit pays d'Amérique centrale qui est juste au milieu. Alors, si vous imaginez une carte, vous partez du Mexique, vous descendez vers le sud, vous arrivez au Guatemala. Au sud du Guatemala, vous avez d'un côté le Honduras, de l'autre côté le Salvador. Au sud du Honduras, vous avez le Nicaragua, puis le Costa Rica, puis Panama, et enfin, vous arrivez en Colombie. Donc, petit pays, 6 millions d'habitants. Une histoire extrêmement chahutée, que je vais vous résumer rapidement, mais bon, il y aura tant à dire. Donc, une phase précolombienne qui n'a pas laissé de traces, contrairement aux voisins du Guatemala et Honduras. Mmh. Ensuite, colonisation espagnole. Mmh. Ensuite... les guerres mondiales, on va dire, avec Napoléon, l'Espagne, l'Angleterre, etc. Bref, les colons espagnols en profitent pour s'affranchir de la couronne d'Espagne. En 1821, l'indépendance. Après l'indépendance, donc, d'une période turbulente, les libéraux, les conservateurs, je vous passe les détails avec des épisodes assez folkloriques. Et comme c'était l'époque aussi du canal, de creusement du canal de Panama, les Américains, qui avaient l'œil sur tout, ont souhaité pacifier, entre guillemets, Nicaragua et envoyer une armée d'occupation qui, de 1927 à 1934, a occupé le pays. Et s'est levé contre cette armée d'occupation le valeureux général Sandino, qui, avec une armée de paysans et d'ouvriers, a chassé, entre guillemets, l'envahisseur. On a dit que c'était le premier Vietnam donc, de l'histoire de l'humanité. Et voilà. Alors, ceci dit, les Américains, en partant, ont installé un homme à eux qui a fait assassiner Sandino et qui ensuite a installé, lui, ses frères, ses enfants, donc dans une dictature qui devait durer jusqu'en 1979. Là, donc, un front, le Front de Libération, Front Sandiniste de Libération Nationale, a pris le pouvoir, a chassé le dictateur et a instauré une révolution que le monde entier a qualifiée d'exemplaire. Une révolution humaniste, inspirée bien sûr de principes humanitaires, d'égalité, de redistribution des richesses, de paix sociale, de liberté publique, etc. Donc ça, c'est 1879. Mais cette révolution n'a pas plu aux grands voisins américains, donc, qui a, dès le début, commencé à harceler, etc. Le gouvernement s'est raidi, et après, s'en est suivi une histoire un peu sombre, dans laquelle les sandinistes se sont rigidifiés, puis apparition de corruption, puis etc. Enfin, un scénario assez classique donc, dans ce genre de situation. Jusqu'à finalement des élections qu'ils perdent, l'installation d'une un peu une contre-révolution, d'une période néolibérale jusqu'en 2006. Et ensuite, un retour triomphal, entre guillemets, mais un peu truqué, donc des sandinistes au pouvoir, qui arrivent jusque... et qui y sont encore.
Oui.
Alors, si vous avez suivi les événements, dimanche 7 novembre, il y a eu des élections qui étaient absolument ridicules, qui étaient une grande farce. En gros, Ortega a chassé, a emprisonné ou chassé du pays tous les opposants crédibles, a organisé des élections pour lui. Toute la réprobation internationale, à part la Corée du Nord, la Russie... Et Cuba et Venezuela, qui sont des alliés historiques, donc que gouvernement que personne ne reconnaît, mais qui est pourtant en place. Et si on voit la carte du monde, on s'imagine qu'il peut être là encore pour un moment. Alors, il y a eu quand même un épisode là-dedans donc, qui retient toute notre attention, c'est 2018. 2018, des émeutes généralisées dans tout le pays. Avril 2018, une répression sanglante dans laquelle la néo-dictature donc d'Ortega a révélé son nouveau visage en tirant sur la foule. 300 morts et sidération nationale donc, de voir l'horreur absolue donc, que ce régime qui vient pourtant d'une trajectoire noble et intéressante, et ben, finalement... à instaurer dans la consternation générale.
Donc, c'est merci, parce que je n'étais pas au courant de toute l'histoire, même si l'Amérique latine, pour moi, c'est important. Et c'est pas... les nouvelles ne sont pas super. Mais je pense qu'après la pause musicale, parce que je pense que vous allez nous faire le cadeau d'un morceau de musique, après la pause musicale, on continuera un petit peu. Vous nous direz le contenu de votre manifestation. Donc, du 27 novembre. Voilà. Alors, le titre que vous avez choisi, c'est...
Alors, le titre, c'est « Vivera Monimbo », qui est une belle chanson des premières et belles années de la Révolution, qui chante un quartier héroïque, un quartier indigène, qui s'est levé très tôt et avant tout le monde contre la dictature de Somoza que j'évoquais.
Voilà, super. On écoute.
Una flor de piñuela a la orilla del camino, lavada con la reseda, jabón de seda precolombino. Te veo surgir altivo con tu penacho de gloria, ataviado por la historia, mi querido Monimbó. Los rubios conquistadores que vinieron de otras tierras supieron de tu bravura, de tu heroica resistencia. Chocó la espada invasora con la macana de piedra, y de esa chispa rebelde Nicaragua despertó. Vivirás Monimbó, llama pura del pueblo, oigo tu corazón. Ataba al guerrillero donde el indio cayó, floreció el granadillo para hacer la maipa que tocan los sones de liberación. Tremolaron las marimbas, todos los alcaravanes repitieron la consigna, empuñando la bandera rojinegra sandinista. Camilo Ortega Saavedra hacia la aurora marchó. Tu sangre pura, Camilo, va creciendo en las pitayas, en la risa de los niños de mi amada Nicaragua. Tu sangre pura, Camilo, llamarada en la montaña, derramó sobre mi patria su violenta floración. Vivirás Monimbó, llama pura del pueblo, oigo tu corazón. Ataba al guerrillero donde el indio cayó, floreció el granadillo para hacer la marimba que toca los sones de liberación.
Vivían el monimboseño, que tiene manos milagrosas. Hamacas maravillosas van brotando de sus dedos. Pero en los días aciagos, en el fragor del combate, hizo bombas de mecate para la revolución. América está mirando tu coraje y tu hidalguía. Tu corazón de obsidiana aterró a la tiranía. Ni tanques ni batallones demolerán tu conciencia, tu milenaria presencia, mi querido Monimbó.
Vivirás, Monimbó, llama pura del pueblo, y con tu corazón ataba al guerrillero.
Oui, on a entendu une chanson de guerrilleros, de guerriers, et voilà, d'une époque où le Nicaragua était portait beaucoup d'espoir. Et donc, je suis toujours en compagnie de Florent Marot, et qui est donc le président du comité Nicaragua-Occitanie, qui visiblement connaît bien le pays, et qui va par contre nous parler de la manifestation qui a été prévue pour ce samedi 27 novembre, dans le cadre de la quinzaine des solidarités internationales. Voilà, vous avez la parole, mon cher.
Merci Marie-Claude. Alors, nous avons un gros morceau sur cette journée du samedi, puisque nous commençons à 15h30 et nous finissons à 21h30. Alors, pourquoi la Maison du Tiers-Monde nous a accordé ce créneau ? C'est parce que nous avons pris l'option d'organiser quelque chose sur le Nicaragua, bien sûr, mais aussi sur deux autres pays qui retiennent notre attention en ce moment, que sont le Chili et la Colombie. Alors, plutôt que bien sûr, nous sommes extrêmement tristes de la situation au Nicaragua, mais nous pensons qu'il y a aussi des lueurs d'espoir, et que ces lueurs d'espoir sont portées par la jeunesse. C'est le fil rouge de notre après-midi. Il y aura une première table ronde sur le Nicaragua, bien sûr, une deuxième table ronde sur Colombie et Chili, et enfin une soirée festive avec un orchestre chilien qui s'appelle Santiago Vive et qui animera donc des échanges culturels, des discussions, etc., sur un fond musical qu'ils ont eu la gentillesse d'animer. Alors, sur le Nicaragua, le rôle de la jeunesse, j'en évoquais un mot dans la première partie. C'est la jeunesse qui, en avril 2018, a dit à la dictature « ça suffit, on veut autre chose », qui a été réprimée, qui n'a pas été entendue, et qui sans doute a encore quelques noires années devant elle, jusqu'au départ d'Ortega et la clique. Mais des lueurs d'espoir aussi, même si le résultat des élections au Chili ce matin laisse craindre le pire, parce que l'extrême droite est en tête et que voilà, c'est pas très rose. Mais au Chili, il y a une assemblée constituante, il y a énormément d'idées nouvelles qui en sont sorties. Elle est animée par des jeunes. Le maire de Santiago, il a une trentaine d'années. Il y a beaucoup de choses, donc beaucoup de voyants verts qui s'allument eux aussi et qui attirent notre attention. Alors la Colombie, c'est pas rose non plus. Mais en Colombie, on rappelle quand même qu'après des années noires, notamment de présence de l'extrême droite au pouvoir et de la guérilla avec des milliers et des milliers de morts, il y a eu un régime, celui du président Santos, donc, qui a eu le prix Nobel de la paix après, qui a réussi avec le mouvement des FARC donc, à signer des accords de paix, qui était quelque chose de complètement inattendu, à les mettre en œuvre, qui après, bon, ça c'est le cours de l'histoire, a perdu les élections, et la droite dure est revenue au pouvoir. Mais quand on voit ce processus de paix, et les forces qu'il a mobilisées, particulièrement dans la jeunesse, qui ont dit « ça suffit, on veut que notre pays redevienne un pays démocratique dans lequel il y ait des libertés publiques et dans lequel on change à la fois l'image de notre pays et ce qu'on veut faire », donc là aussi, la jeunesse, on fera un zoom sur elle. Alors, nous aurons des intervenants universitaires, des intervenants militants, je ne cite pas toute la liste, des films pour introduire donc, cette table ronde, qui nous mettront une touche d'émotion et de réalisme dans ces deux soirées. Et puis, pour la soirée, nous faisons confiance à cet orchestre qui... pour mobiliser et faire, je dirais, chose qui est importante, renaître un peu autour de la Maison du Tiers-Monde et des Solidarités, les associations qui ont ont disparu du paysage montpelliérain.
Oui.
Et qu'on aimerait bien que ce soit l'occasion de les faire renaître et de redynamiser l'esprit latino-américain dans notre ville de Montpellier.
Oui, parce qu'il y a la place. Hein, je veux dire, l'international à Montpellier là, est vraiment, a vraiment une place tout à fait à part par rapport à d'autres villes. Et c'est vrai qu'en plus, les latinos, sans le folklore, sans la musique, sans la danse, sans le chant, c'est pas des latinos. Donc on peut très bien faire des choses très sérieuses comme les conférences que vous proposez, l'exposition, etc. Et en plus, se faire plaisir. Et merci d'avance avec des rythmes vraiment de là-bas et entraînants.
Donc, vous ne serez pas déçus, ni donc, par le contenu politique, ni par le contenu festif.
Parole de Florent Marot, hein, voilà, le président du comité. Voilà, donc merci beaucoup Florent. Donc je vais vous faire part d'une...
Peut-être ça se passe à l'espace Martin Luther King.
Ah oui, c'est vrai, on ne l'avait pas dit, oui.
À partir de 15h30.
Voilà. Qui est un espace très agréable avec une cour intérieure, voilà, etc. Voilà. Oui, on n'avait pas dit ça. Et donc, de 14h30
à
20h30.
À boire, à partir de 19h.
Voilà, à partir de 19h à boire et à chanter. On peut même n'y aller que pour ça, tant pis. Oui. Par solidarité aussi. Mais voilà, ça sera vraiment assez ouvert à tous. Donc, pour ma part, je suis chargée de faire un communiqué concernant Jérusalem. Donc, Jérusalem, même base sur la ville. Donc, déposséder, expulser, la dépalestinisation, je trouve ça donne le frisson, de Jérusalem-Est. C'est un événement, donc c'est un titre qui aura... Enfin, c'est une conférence aussi qui aura lieu à l'espace Jacques Ier d'Aragon, le 27 également, de 15h à 20h30. Espace Jacques Ier d'Aragon, c'est un espace qu'on peut atteindre avec les trams 1 et 4. Et à la station Rive du Lez. Voilà, et cet événement est organisé par les associations du collectif Palestine 34, ACAT 34, AFPS 34, les Amis du Sabel, ATM 34, CCFD TSTS, Intersolidaire, donc CDTM Montpellier, Kairos 34, LDH Montpellier et Mouvement de la Paix. Voilà, vous voyez qu'il y a quand même tout un pool d'associations qui se groupent pour la paix et pour faire cesser ce qui se passe actuellement. Et je dois dire qu'actuellement aussi, par rapport aux news, la situation n'est pas brillante non plus. Donc, on va souhaiter plein de bonnes choses à toutes ces organisations et à toutes ces mobilisations et ces manifestations qui vont avoir lieu. Donc, toujours dans le cadre de la quinzaine des tiers-mondes de la solidarité internationale. Et pour Jérusalem, vous pouvez demander, vous avez possibilité, parce que c'est très complet avec des tables rondes, etc., contact@afps34.fr. Voilà. Donc, j'en profite pour faire un petit coucou à Madeleine. Elle comprendra pourquoi. Et puis, je dis merci à la régie, merci à Yann et à Stéphane. Voilà. À bientôt, si vous le voulez bien. Au revoir.